Décryptage, Marie Cazadebé.
En République centrafricaine, un mois seulement après la signature de l'accord de paix de Bangui, le pacte paraît déjà bien fragile. La composition du nouveau gouvernement était attendue au tournant par les signataires. Les groupes armés espéraient y trouver une large place. Ce n'est pas le cas. On est déjà loin de l'enthousiasme exprimé après les négociations de Khartoum.
C'est la paix qu'on a ramenée du Soudan, la concorde, l'unité nationale et la réconciliation nationale. Elle est aujourd'hui effective. Et c'est à nous aujourd'hui, les anciens groupes armés, le gouvernement, de propager cela sur toute l'étendue du territoire national.
Démission de membres du gouvernement, retrait du processus de paix, menace en cas de copie mal corrigée. Le 8e accord de paix conclu en Centrafrique depuis 2013 est-il déjà mort et enterré? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Mathilde Tarif.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes doctorante chargée d'enseignement à l'Université Paris 1, spécialiste de la Centrafrique. Et nous sommes au téléphone avec Thierry Vircoulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et enseignant à Sciences Po. Alors, 5 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix de Bangui estiment que cet accord n'a pas été respecté au vu de la composition du gouvernement annoncé dimanche. Mathilde Tarif, qu'est-ce qui a été négocié à Khartoum sous l'égide de l'Union africaine et qui n'est pas appliqué selon ces groupes armés?
Alors, les accords de paix qui ont été conclus à Khartoum comprennent beaucoup de dispositions, mais les deux grands points d'achoppement étaient à la fois l'amnistie des groupes armés qui avaient commis des crimes pendant le conflit et d'autre part le partage du pouvoir. Or, dans les accords de paix, le président Touadéra s'était engagé à former un gouvernement inclusif et suite à l'annonce de ce gouvernement, le 3 mars dernier, les groupes armés considèrent qu'il ne l'est absolument pas, que c'est un gouvernement de mascarade et ils dénoncent l'amateurisme du gouvernement.
Est-ce qu'il était précisé dans ces accords le nombre de postes, puisque là on a 7 postes attribués donc à des groupes armés sur 37 ou 36 si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il était précisé justement comment devaient être répartis ces postes?
Alors pas du tout, et justement pour que l'accord soit consensuel il est resté très vague. C'est vrai que sur 36 ministères seulement 6 groupes armés ont eu accès donc, à des portefeuilles, et il se trouve que ces portefeuilles sont en fait relativement dérisoires. Toutes les fonctions régaliennes sont restées aux mains de l'État. Et le premier ministère dans l'ordre protocolaire qui a été attribué à un groupe armé est 20e dans cet ordre, et c'est le ministère attribué au FPRC sur développement de l'hydraulique et de l'électricité.
D'où la frustration. Thierry Vircoulon, il est peut-être important de préciser que des groupes armés étaient déjà présents dans le précédent gouvernement.
Oui, il y avait déjà eu des ouvertures faites par le président Touadéra à des groupes armés dès son élection, la formation de son premier gouvernement en 2016 d'ailleurs. Et donc, ils avaient quelques portefeuilles, il y avait surtout des postes à la présidence, et d'ailleurs on entend maintenant dire que, enfin un des messages qui vient du gouvernement, c'est de dire aux groupes armés qu'ils auront des postes à la présidence et que les postes de ministre ne sont pas tout, etc. Mais en effet, ça ne va pas les convaincre.
Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre le précédent gouvernement et celui-ci par rapport à la représentation des groupes armés?
Bah si, il devenait quand même plus visible, et notamment les deux plus importants, l'UPC et le FPRC, acquéraient du coup une visibilité gouvernementale plus forte. Mais ils ont jugé que c'était insuffisant.
Alors vous l'avez dit, Mathilde Tarif, seulement 6 groupes armés sur les 14 signataires de l'accord de paix de Bangui sont représentés dans ce gouvernement. Comment, selon vous, ont-ils été choisis? Est-ce que ça a été en fonction de leur poids, de l'importance du territoire qu'ils contrôlent?
Alors c'est vrai que si on observe les groupes armés qui ont obtenu des portefeuilles ministériels, on a surtout les principaux groupes armés qui détiennent la plupart du contrôle du territoire, donc l'UPC, le FPRC, et les groupes qui sont plus dérisoires, eux n'ont pas eu de portefeuille. Et ça a d'ailleurs été dénoncé, et le FDPC s'est retiré du processus de paix pour cette raison.
Alors les négociations de Khartoum ont parfois été houleuses. Écoutez Aboul Kassim Malgoni Tidjani, le coordinateur du MPC, qui parlait au nom des 14 groupes armés, à 2 jours de la fin des négociations, d'une seule voix, ils avaient menacé de s'en retirer s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils réclamaient. Écoutez, la liste est longue.
Nous avons sollicité l'amnistie à l'exemple de tous les pays qui ont des crises de ce genre. Mais le gouvernement est hostile car il fait la volonté de la rue. À l'issue ou à la sortie d'une crise, il y a toujours partage des pouvoirs.
Le gouvernement a refusé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale
dirigé par les membres du groupe armé. Nous avons voulu créer des brigades mixtes afin de sécuriser le pays. Le gouvernement a refusé. C'est pour cela que nous avons suspendu notre participation au dialogue pendant 48 heures.
On l'a entendu, hein, les 14 groupes armés étaient très exigeants pendant ces pourparlers à Khartoum. Ils réclamaient même la primature. Ils n'ont finalement pas obtenu tout ce qu'ils réclamaient. Mathilde Tarif, est-ce que le déséquilibre des pouvoirs ne joue pas en leur faveur? Ces groupes contrôlent 80% du territoire finalement par rapport à face à un président qui paraît très affaibli.
Alors il est vrai que si on observe l'état des forces, il n'est clairement pas en faveur de l'État centrafricain qui a une présence minimale dans les provinces, donc à l'exception de la capitale Bangui. Ce sont aujourd'hui les groupes armés qui ont la main sur l'essentiel du territoire, vous l'avez dit, presque 80%, et qui continuent de contrôler à la fois les axes routiers, donc commerciaux, le commerce de bétail, les couloirs de transhumance, mais aussi l'extraction des ressources premières. Donc en effet, ces groupes ont finalement peu d'intérêt aujourd'hui à mettre en place cet accord.
Malgré tout, on a le sentiment qu'ils ont signé cet accord sans finalement garantie d'obtenir le nombre de portefeuilles qu'ils souhaitaient. Quelles finalement étaient les forces alors de la présidence dans ces négociations?
C'est vrai que les groupes armés, bon, de leur côté, eux ont quand même... se sont engagés en tout cas à faire pas mal de concessions dans les accords. Si on le regarde, ils se sont engagés à dissoudre les groupes armés, à désarmer, à cesser l'occupation des lieux publics, à cesser l'extraction des ressources premières. De son côté, le gouvernement s'est quand même engagé donc à créer ce gouvernement inclusif, ce qui crée aujourd'hui les tensions. Mais aussi, on remarque que par rapport à la justice, par exemple, les groupes armés ont quand même obtenu le fait que finalement, aucune procédure judiciaire spécifique ne sont évoqués dans les accords. Même si le mot amnistie ne figure pas, on remarque qu'aujourd'hui, le dispositif qui est envisagé, c'est une commission vérité, justice et réconciliation. Et on sait que c'est malheureux, mais lorsqu'on regarde les autres exemples internationaux, il y a malheureusement peu de chances que les leaders du groupe armé soient inquiétés suite à la mise en place de cette commission. Donc ils ont quand même obtenu, je pense, certains engagements.
Thierry Vircoulon, ils sont exigeants. Ils ont beaucoup obtenu, mais les groupes armés ont encore les moyens d'être encore plus exigeants et d'obtenir plus.
Oui, mais enfin, je ne pense pas que ça soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est que c'est un accord où, en effet, les groupes, enfin, la négociation de Khartoum est une négociation où les groupes armés viennent avec une liste de revendications. Ils ont mis, l'Union africaine a mis plus d'un an à la formaliser, donc... Évidemment, elle est longue. Et de l'autre côté, le gouvernement centrafricain vient avec des promesses creuses. Le problème fondamental, c'est que chacun connaît les cartes de l'autre et chacun connaît les intentions de l'autre. Et chacun sait très bien que c'est un jeu de dupes. Donc, les groupes armés ont signé et le gouvernement a signé, mais aucun des deux n'avait probablement l'intention de tenir ses engagements.
Mathilde Tarif.
Il est aussi vrai, pour reprendre ce que dit Thierry Vircoulon, que ces négociations sont un jeu de dupes, mais que c'est aussi un vrai moyen pour les groupes armés, finalement, de gagner en reconnaissance, en légitimité, et d'avoir accès, une nouvelle fois, à certaines ressources. On le sait, ces plateformes de négociations sont aussi un moyen d'avoir accès à des per diem et à l'État aussi. Donc, je pense qu'ils ont aussi intérêt à participer à ces négociations, même malgré le fait que ce soit de façade.
On va y revenir, mais Thierry Vircoulon, vous parliez des peu de cartes que la présidence et le gouvernement avaient entre les mains. Quels étaient leurs moyens de pression quand on sait effectivement que ces groupes armés contrôlent une grande majorité du territoire?
Aucun sur le plan de la coercition. Après, c'est juste un jeu de promesses, comme je le disais. Quand on voit l'accord, on voit qu'il y a une longue série de promesses gouvernementales qui va de la décentralisation à une fiscalité plus équitable, etc. Et c'est-à-dire, la façon dont il faut lire ces articles, d'ailleurs, C'est une promesse qui est faite d'argent, qui est faite aux leaders des groupes armés en leur disant, bah, écoutez, si on fait une décentralisation, vous contrôlerez une partie du pays, et si en plus on fait une décentralisation fiscale, vous contrôlerez l'argent public qui sera alloué à ces régions ou à ces provinces, etc. Mmh. Et donc tout ça ne sont que des promesses d'argent qui ne sont pas crues évidemment par les groupes armés, qui signent essentiellement parce que, comme le disait Mathilde, ils sont payés pour ça. Mmh. Et ils ont été payés pour ça par la Russie.
La Russie, effectivement, mais qui n'était alors qu'observatrice. Vous pensez qu'elle a eu un rôle bien plus important que celui-ci ?
Bah, la Russie a joué un rôle majeur en coulisses derrière le faux nez de l'Union africaine. On se rappelle que l'année dernière, elle avait déjà organisé des réunions avec les groupes armés à Khartoum et que à la fin de l'année de 2018, un arrangement a été trouvé entre l'Union africaine, le Soudan et la Russie pour se mettre d'accord sur cette formule d'une réunion où l'Union africaine aurait le rôle officiel, mais où la Russie serait en coulisses et c'est elle qui a donné l'argent.
Et dans quel sens négocierait-elle la Russie, justement? Comment aurait-elle joué d'influence à Khartoum pour obtenir quoi?
Bah, la Russie a pris une importance considérable, pas seulement à Khartoum, mais à Bangui aussi, grâce à un conseiller russe qui est à la présidence, Valéry Sakharov. C'est pour ça que, depuis cette époque, ils ont commencé à agir dans les affaires centrafricaines, à prendre des contacts avec les groupes armés et à établir cette initiative de paix. Qui au départ était concurrente de l'initiative de l'UA, donc sur le plan diplomatique ça faisait des ordres, et à la fin 2018 un accord a été trouvé pour donner le premier rôle à l'UA mais faire une place importante à la Russie.
Trois groupes se sont retirés de cet accord de paix. Ce sont les trois principaux groupes armés issus de l'ex-coalition Seleka qui avait pris Bangui en 2013. Le FPRC, le MPC et l'UPC. Le FPRC n'a d'ailleurs pas hésité à menacer directement le président Touadéra et à lui laisser 72 heures pour corriger sa copie. Abakar Sabon et son porte-parole, il s'exprimait lundi dernier.
Nous contrôlons 80% du territoire centrafricain depuis 5 ans. Et depuis lors, le pouvoir de Touadéra n'a jamais été inquiété par les groupes armés. Et nous prenons à témoin le peuple centrafricain et la communauté internationale. Le non-respect de nos engagements, Touadéra et ses alliés seront seuls responsables de toutes les conséquences qui en découleront.
Thierry Vircoulon, faut-il prendre au sérieux et même craindre une réponse violente des groupes armés frustrés un mois seulement après les accords de Bangui ?
Oui, enfin ils vont probablement montrer les muscles de la façon dont ils le font habituellement, mais je pense que finalement cet accord sera désavoué par tout le monde. Il va y avoir en effet quelques épisodes de tension dans leur zone, dans les zones qu'ils contrôlent, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à des choses très dramatiques. Mmh.
Mathilde, t'arrive pour revenir aux revendications notamment du FPRC dans un courrier. Le groupe armé avait listé ses revendications, on y trouvait les ministères de la sécurité publique, des eaux et forêts ou encore de l'agriculture. Ce ne sont pas des choix anodins. À noter évidemment qu'ils n'ont pas obtenu ces postes-là, mais ce ne sont pas des choix anodins.
Ah non, bien sûr, évidemment. Les portefeuilles ministériels qui étaient demandés par le FPRC touchaient bien sûr à des fonctions extrêmement stratégiques, que ce soit donc la défense, que ce soit tous les ministères liés à l'extraction des ressources. On sait qu'aujourd'hui, le FPRC continue à extraire des minerais dans les zones qu'il contrôle. Et comme d'ailleurs le disait Thierry Vircoulon, la revendication de décentralisation qui tenait à cœur au groupe armé vise justement à pouvoir mieux contrôler ces territoires et à garder la main mise sur ces ressources.
Finalement, ce qui est recherché, c'est une officialisation de leur pouvoir sur leurs régions respectives.
Alors, officialisation, je ne sais pas, mais en tout cas, de facto, ils contrôlent ces territoires et l'accord de paix entérine ce contrôle.
Mais quelles garanties ont-ils montré? Est-ce qu'ils ont montré des gestes de bonne volonté pour pouvoir intégrer un gouvernement?
J'aurais du mal à répondre à cette question. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un fait nouveau que les groupes armés soient intégrés au gouvernement. Aujourd'hui, typiquement, si on prend le cas de quelqu'un comme Abdoulaye Hissène, donc un leader de groupe armé du FPRC, on remarque qu'il était déjà dans le gouvernement de Joe Todia, qu'il a ensuite été dans le gouvernement de Samba Panza. Aujourd'hui, il réclame un poste dans le gouvernement de Touadéra. Bouba de l'UPC était lui aussi et d'ailleurs l'est encore conseiller à la présidence. Donc voilà, ces groupes armés, finalement, ça a toujours été un peu le jeu aussi de, par la force, revendiquer une position de pouvoir au sein du gouvernement.
Oui. Un peu de geste, hein, de bonne volonté. On est au quatrième DDR, donc programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Et c'est toujours un échec, d'où l'inquiétude de certains centrafricains. Vous allez entendre le témoignage de deux habitants de Batangafo, une ville du Nord contrôlée par trois groupes différents, et puis celui de deux Banguissois.
Ils boivent beaucoup, ils viennent nous demander de l'argent. Même chez toi, si tu te disputes avec ton mari, ils viennent pour te taxer. Si tu ne donnes pas d'argent, ils te frappent.
On va circuler librement, mais dans la bouche, on ne sait pas. Hein, parce que leur pensée est autre, est différente par rapport à l'accord qu'ils ont signé. Parce que tu dis que non, calme est revenu, je peux aller au champ pour chercher du fagot, quoi. Et tu risques de tomber dans la main des groupes armés.
Je ne suis pas d'accord avec le président Touadéra pour aller dialoguer avec les rebelles. Rebelles, c'est un tueur des gens.
À ma connaissance, ce ne sont que des rebelles qui sont allés se promener. On va toujours souffrir, on va toujours mourir. Ce n'est pas la première fois et rien ne va nous étonner de toute façon.
Mathilde Tarif, on a le sentiment que les autorités de Bangui sont coincées entre des groupes armés très exigeants et qui ont les moyens de l'être, et des Centrafricains finalement qui ont soif de justice, on l'entend.
Oui, bien sûr, les Centrafricains ont soif de justice. C'est toujours le dilemme entre essayer de maintenir la stabilité, donc en répondant aux demandes d'immunité des groupes armés, tout en répondant aussi, bien sûr, aux griffes des victimes. Et l'accord, clairement, y répond peu. Comme je le disais, aucune évocation de procédure judiciaire particulière, même pas des efforts récents qui ont été entamés, que ce soit avec la Cour pénale spéciale ou la Cour pénale internationale. Donc, en effet, cette impunité pose problème. Et déplaît fortement aux ONG de défense des droits de l'homme, tout comme aux associations des victimes et aux centrafricains en général. Oui.
Thierry Bircoulon, on a l'impression que les grands oubliés de ces accords de Bangui, finalement, ce sont les victimes et même les centrafricains.
Oui, tout à fait. Enfin, ces accords sont des négociations avec des criminels, pour la plupart d'entre eux. Donc, en effet, la population est oubliée.
Et comme vous le disiez, Mathilde Tarif, au seul moment d'ailleurs dans les accords où il est question de vérité, de justice, de réparation, de réconciliation, donc de ces fameuses commissions, finalement, c'est remettre la justice aux mains des bourreaux.
En quelque sorte, d'autant plus que il me semble que c'est la commission inclusive qui doit être, qui a été mise en place par décret présidentiel d'ailleurs, sera aussi composée de membres de groupes armés afin de faire des recommandations pour la mise en place de cette commission vérité. Mmh. Donc en effet, comme vous le dites, les bourreaux n'ont absolument aucun intérêt à se retrouver à la CPI ou autre part et juger, ce qui pose bien problème. Et ce qui est relativement malheureux, c'est que finalement parfois on a le sentiment de revenir un peu à la case départ. On se rappelle que lors du forum de Bangui en 2015, il avait été dit qu'il était hors de question qu'il y ait amnistie et impunité. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec des négociations qui patinent sur ce point-là.
Pour conclure, c'était le huitième accord depuis 2013. Est-ce qu'il y a tout de même des points positifs à souligner par rapport au précédent ?
Des points positifs, beaucoup le qualifient d'historique, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas on peut quand même noter que l'Union africaine a réussi à jouer un véritable rôle de facilitateur, ce qui n'était pas gagné au vu des médiations parallèles menées par le Soudan et la Russie, et que l'ensemble des acteurs a en tout cas réussi à se mettre autour de la table des négociations, même si... peu d'espoir persiste sur ces accords de paix.
Voilà, peu d'espoir donc sur la future vie de cet accord de paix. Semble-t-il déjà quasiment enterré, en tout cas par nos invités. Mathilde Tarif, merci. Doctorante chargée d'enseignement à l'Université Paris 1. Et Thierry Bircoulon, chercheur associé à l'IFRI. Merci, enseignant à Sciences Po. Et merci à toute l'équipe de Décryptage. Louise Calédec, Charles Barré, Laurence Sarniguet et Laurie Plisson. Tout de suite, l'actualité africaine sur RFI.